France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Quoi de mieux pour commencer l'année 2025 que ces vers de Verlaine qui, dans son poème Art poétique, n'entendent pas donner une méthode, mais chantent son état d'âme, sa couleur personnelle, son interprétation des nuances. Et c'est bien d'interprétation que nous allons parler aujourd'hui avec vous, Alexandre Kantorov. Vous êtes l'un des plus grands pianistes reconnus mondialement. Vous avez seulement 27 ans et vous composez, disque après disque, votre art poétique à vous. Alerte, puissant, romantique et résolument contemporain. Bonjour Alexandre Kantorov.
Bonjour.
Alors, c'est une joie de commencer l'année avec vous. Peut-être avant de parler musique, est-ce que vous avez un rituel pour le 1er janvier, une musique qui vous accompagne particulièrement, ou est-ce que vous préférez le silence après la fureur de la veille?
En général, le 1er janvier, il y a besoin de beaucoup de silence. La tête, elle explose sinon. Mais j'ai pas beaucoup de rituels musicaux. En général, au contraire, je me laisse guider le plus possible par l'envie du moment. Surtout aussi, j'ai un rituel avant les concerts où j'écoute toujours de la musique, et c'est pareil, j'essaie toujours de varier, de sentir ce dont j'ai besoin le jour même, donc on verra.
Votre dernier disque, Brahms Schubert, est sorti en novembre chez Bis Records. Vous revenez juste d'une tournée en Asie et vous commencez en ce début d'année une série de concerts. À la fin du mois, vous serez à Los Angeles, Houston, puis New York. Et pour les dates françaises, vous jouerez le concerto de piano numéro 4 de Beethoven à Strasbourg avec l'orchestre philharmonique en février, puis le concerto pour piano numéro 1 et numéro 2 en mars, ici même à l'Auditorium de Radio France, puis à Dijon. Vous parcourez le monde avec votre piano, seul ou accompagné d'un orchestre. Qu'est-ce qui se passe sous vos doigts quand vous êtes sur scène avec un public qui vous regarde? Est-ce que le son de votre instrument est influencé par la salle?
Bien sûr, en ayant le même piano dans une autre salle, souvent on se fait avoir et on le reconnaît pas. C'est une sorte de balance fine qui s'installe entre l'impression de notre son sur scène, qui renvoie à l'acoustique du lieu et qui change en même temps quand le public rentre aussi. On a même ces surprises à ce moment-là. C'est à la fois notre malédiction et notre plus belle bénédiction, parce qu'on passe du temps à lutter et on a l'instant de magie qui peut opérer à des moments. Et donc on a cette curiosité et ce mystère qui fait que même quand on joue la même pièce dans différents endroits, on va forcément devoir s'adapter et donc, par les limites imposées, découvrir de nouvelles choses et essayer de trouver un moyen d'être convaincant dans un autre lieu. Et ça c'est un des grands amours que j'ai pour ce métier.
Vous les sentez, les regards des gens quand vous êtes en public?
Ça dépend. En général, les bons moments de concert, c'est des moments où soudain, j'oublie à la fois ce qui se passe autour de moi et j'oublie même ce que je suis en train de faire, où j'ai plus beaucoup de conscience et je laisse l'instinct de la musique, l'oreille guider plus que la tête. Et c'est ces moments-là où je sens que je suis le plus connecté et j'arrive du coup après à être plus convaincant auprès des gens, à vraiment plus les toucher. Si je commence à avoir trop de sensations et à entendre un petit peu trop, voilà, le bruit, le public, se penser à ce que je fais, en général, je me bloque et ça limite la musique.
Vous avez reçu une série impressionnante d'honneurs et de prix, impossible de tous les citer, mais quand même, en 2019, vous avez alors 22 ans et vous êtes le premier pianiste français à remporter le premier prix du concours Tchaïkovski ainsi que le Grand Prix, décerné seulement 3 fois auparavant dans l'histoire du concours. En 2024, vous recevez le Guillemot Artist Award, décerné tous les 4 ans, vous êtes le premier français et le plus jeune à le recevoir. Tous ces prix, ce sont évidemment des reconnaissances internationales majeures, mais aussi peut-être une pression ou une responsabilité. Comment on vit et on travaille au quotidien auréolé de toutes ces médailles?
j'ai vécu ce moment le plus fort au moment du concours Tchaïkovski, où par l'histoire du concours, par les vraies légendes du piano qui ont gagné ce prix avant. J'ai ressenti vraiment ce poids juste après, où j'étais, en plus c'était tout nouveau, et autant je m'étais préparé pour le concours, je m'étais absolument pas préparé à l'après-concours et à ce déferlement de concerts, d'idées de nouvelles organisations, de penser pour le futur, qu'est-ce que je veux jouer dans 1 an, qu'est-ce que je veux jouer dans 2 ans. Et oui, il y a ce vrai moment où on se sent un peu emporté dans une tempête, et petit à petit on arrive à se recentrer. Et donc je sais que je suis un petit peu obligé, pour mon état de santé mentale, de me couper justement des réactions aux récompenses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que...
Vous y arrivez, ça, de vous couper de ces récompenses-là? C'est pas facile, on vous le rappelle à chaque fois, je viens de le faire à nouveau.
Ouais, petit à petit, je pense, parce que sinon, je serais un jour sur deux en train de me dire je suis génial, l'autre jour je suis horrible, qu'est-ce que je suis un mauvais pianiste, en fonction des retours des gens. Donc j'ai besoin d'avoir un tout petit peu de distance, parce que j'ai l'impression que là, là où on est le plus convaincant en tant qu'artiste, c'est quand on fait quelque chose en pensant pas au retour, en pensant pas à la conséquence de ce qu'on est en train d'accomplir. On essaie juste de donner quelque chose sur le moment. Donc voilà, j'essaye. C'est pas parfait, mais j'essaye.
Alexandre Kantorov, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ?
On entend le troisième mouvement de la première sonate de Brahms dans le dernier disque que j'ai sorti. C'était la fin d'un cycle autour des premières sonates de Brahms. Elles sont parmi les œuvres les plus ambitieuses et les plus folles qu'il ait écrites. C'est vraiment sa première période où il tente et il expérimente énormément de choses. Et ce sont des grandes symphonies qui clairement dépassent les limites du piano, surtout les instruments de l'époque. Mais on sent, voilà, il tire toutes les possibilités, la limite. C'est pour ça qu'on a des œuvres qui sont denses et qui sont assez étranges. Ils ont peu de mélodies, ils ont peu de choses qu'on retrouve dans beaucoup d'autres sonates de cette époque. Mais voilà, elles ont cette immensité et ça me plaisait beaucoup de faire découvrir ce Brahms-là. Donc, pour chacune des sonates, je les avais placées dans un disque autour d'œuvres qui a, pour moi, complété bien et me replacer Brahms au milieu d'autres compositeurs. Et là, ce dernier disque, il est combiné avec Schubert, la Wanderer Fantasy. C'est une manière de mettre les deux en parallèle, parce que je pense que c'est la Wanderer Fantasy de Schubert est un vrai calque et un vrai modèle pour Brahms. C'est une idée très romantique d'unifier quelque chose qui a des codes et une structure, une sonate, et de la transformer en une grande œuvre poétique d'un bloc. Et Schubert le fait à l'extrême, et Brahms l'a vraiment calqué et a utilisé ce modèle, même s'il reste plus classique dans la structure. Et voilà, c'est une œuvre qui me plaît beaucoup.
Qu'est-ce qu'elle représente, justement, la musique de Brahms dans votre carrière à vous ?
Beaucoup de choses. J'ai entendu très tôt ses œuvres. L'œuvre, on me demande de temps en temps c'est quoi mon œuvre préférée. J'ai du mal à répondre à autre chose que le deuxième concerto de Brahms. C'est une œuvre que j'ai découvert à 14 ans. Et elle me paraissait avoir la place parfaite du piano au sein de l'orchestre. C'était une symphonie où les deux instruments, l'orchestre et le piano fusionnaient. En même temps, des grands moments de musique de chambre, de variété, un chemin symphonique immense comme dans les symphonies de Beethoven. Donc, ouais, je trouve sa musique vraiment embrassait beaucoup de choses. Elle embrasse aussi la musique de chambre. Elle a une sorte de place où elle est dans l'histoire de la musique, à la fois tournée vers le passé, la structure, la logique. Tout est construit à partir de très petites cellules rythmiques ou de motifs, et tout s'organise naturellement autour de ça. Et en même temps, il y a la fluidité, il y a l'inspiration, il y a le romantisme et les tourments de l'artiste et du poète là-dedans, avec cette dignité contenue. Et voilà, je trouve Brahms a une très belle place centrale, et tout ce qu'il a fait, comme il est était très perfectionniste et qui virait toutes les œuvres qu'il n'aimait pas ou ils empêchaient leur publication, bah, ce qu'on a, c'est assez magique.
Puisque vous parlez de perfectionnisme, votre professeur à l'École normale de musique de Paris vous demandait, je la cite, de jouer en couleur avec des teintes, un phrasé, de la respiration et des points-virgules. Est-ce que ce conseil vous est toujours utile aujourd'hui, Alexandre Kantorov?
Toujours, on a peu de paramètres au piano. On est loin d'un instrument à cordes qui peut contrôler le son autant qu'il veut, qu'il y a un archer qui permet de phraser et de pouvoir tenir une note aussi longtemps qu'il le veut. Nous, on est bloqué avec un instrument percussif et donc on doit essayer de tirer le maximum et donc on a l'attaque de la note et on a le temps qu'on prend entre les notes et une infinité de variations avec ça. Et ma professeure était très attachée à entendre le son très longtemps, à développer au maximum les possibilités, les variétés de sons, d'imaginaire et de couleurs. Et oui, j'ai encore ça et je la vois de temps en temps. Elle me redonne des coups de boost quand j'en ai besoin.
C'est grâce à son enseignement à elle que vous détachez les notes aujourd'hui ?
J'ai eu beaucoup d'enseignements et je pense que la grande chance, c'est que j'ai eu ces professeurs au bon moment. En fait, j'ai eu Rena Cherechevskaya, la dernière professeure que je continue à voir encore. Elle est arrivée après la découverte vraiment de la musique en groupe au Conservatoire de Paris. J'étais avec un super professeur, Franck Bralet, qui voyait le piano comme une sorte de juste un moyen musical de se rapprocher de l'orchestre. Il voyait les choses en composition. Et c'est là où je découvrais la musique de chambre. C'est là où j'ai mangé le plus de musique. Et ensuite, Rena est arrivée pour aller en détail sur une interprétation, pousser la limite de ce qui était possible. Et elle a une forme de mysticisme où elle a un enseignement très concret. Elle sait comment on peut trouver les moyens dans son corps d'avoir le bon geste pour atteindre ce qu'on veut. Et en même temps, elle va être la première à parler de symbolisme, à imaginer que tous les compositeurs connaissent le symbole de certaines mélodies depuis Bach, que ça remonte aux passions de Bach et qu'on peut retrouver une toile comme ça au travers du temps avec tous ces compositeurs. C'est peut-être faux, mais la volonté et l'amour de la musique que ça la provoque et la recherche qui en découle, bah, c'est une grande partie de la source de l'interprétation.
La vitesse, donc, condition nécessaire à la virtuosité et à son pouvoir d'enchantement. En parlant des études d'exécution transcendante de Franz Liszt et plus précisément de Feu Follet, Jean Kelevitch revient au micro de Dominique Jameux sur cette idée de victoire effectuée par le virtuose de la mobilité sur l'immobilité. Dans la vitesse, le virtuose s'échappe de l'immobilisme. On écoute le philosophe, c'était le 5 juillet 1979 sur France Musique.
Dans Feu Follet apparaît l'autre victoire de la virtuosité, qui est la victoire de la mobilité sur l'immobile, sur l'immobilité qui nous rive au sol.
Une victoire pas sur le temps.
Sur la pesanteur, sur la lourdeur, la lenteur, toutes les forces qui nous empêchent de triompher dans l'ubiquité.
C'est une gageure et une illusion proche de celle du danseur.
Si vous voulez, de même que la danse est une lévitation par laquelle le danseur triomphe de la pesanteur, montre qu'elle n'existe pas, de la même manière, par la vitesse et dans la vitesse, dans la mobilité, dans les difficultés semées sur sa route également, le virtuose affirme son indépendance par rapport à toutes les formes qui le paralysent, qui le rivent au sol.
Êtes-vous d'accord avec cette vision de la virtuosité qui, pour Yankelevitch, on vient de l'entendre, est égale à la vitesse?
Il parle de cette impression de victoire et c'est une émotion qui est bien plus intéressante que simplement la vitesse. La vélocité, c'est qu'on apprend ça très tôt, mais la beauté de la virtuosité, c'est le danger, c'est la prise de risque, c'est voir quelqu'un aller se dépasser et sentir voilà, ce moment sur la ligne qui est tendu et effectivement, à la fin, ce triomphe. Et donc, j'ai toujours adoré l'idée de la virtuosité et je trouve que voilà nos grandes compositions ont souvent fait état de virtuosité dans des choses peu communes parce que ça ne veut pas forcément dire juste jouer vite et fort, ça veut aussi dire arriver à maîtriser tellement la technique qu'on arrive à rendre la pièce facile des fois. Il y a des pièces qui méritent d'être juste légères et qui sont redoutables et on ne doit absolument pas entendre la difficulté. Il y a des pièces au contraire où il faut plonger dans l'abîme vraiment du désespoir et que le public ressente cette douleur et cette intensité. Donc, c'est pour ça que je suis très content qu'il dépasse simplement le cadre de la vitesse.
Il parle aussi de la lévitation, c'est un sentiment ouais. Que vous sentez parfois quand vous êtes sur scène, cette lévitation?
Bien sûr, il y a rien que le poids des touches, en fait, on le ressent, et même selon les instruments, il y a des instruments où on a l'impression d'être bloqué, d'avoir des poids sur les mains, parce que les touches demandent plus de... Elles sont plus longues, le jeu est plus long, donc on a vraiment une impression de lourdeur parfois, il faut s'en échapper. Et l'adrénaline qu'on a pendant les concerts, des fois, c'est le seul moyen aussi d'arriver à échapper d'échapper à, et de transcender certains passages. Donc oui, je suis d'accord. Ouais.
Vous parliez de vos mains. Est-ce que vous voyez vos mains changer au fur et à mesure que votre carrière avance?
C'est joli de me demander ça. Je le vois. Je sens que plus jeune, j'avais des mains qui allaient très très vite. Mais c'était du beurre. Souple, facile, mais aucun son, aucune tenue, aucun poids. Et donc, j'effleurais vraiment les touches. Et donc, souvent, il y avait des notes qui sortaient même pas, tellement c'était en surface. Et grâce à l'enseignement, grâce à mes parents, mes professeurs qui vraiment l'entendaient, bien plus que moi, de prendre le temps de construire un son, de prendre le temps d'affirmer sa main et de savoir creuser un son et d'avoir une richesse. Et donc je me bats encore contre cette nature-là, mais je sens que j'ai peut-être perdu un peu de cette souplesse et de cette facilité où les choses me paraissaient très évidentes jeune, mais je pense que ça m'a permis aussi de gagner une palette un peu plus riche de possibilités sonores.
Puisqu'on parle de vos mains, est-ce que vous travaillez physiquement vos interprétations là, puisqu'on parle de Brahms ou de Schubert, est-ce qu'elles demandent, ces musiques-là, une gestuelle particulière, une position du corps particulière?
Ouais, elle est différente pour chaque pianiste et on le trouve en fait selon le, et ça dépasse même simplement le cadre de Schubert où on le joue comme ça, Brahms on le joue comme ça. Chaque pièce qu'on aborde, on tâtonne, on commence à avoir des idées et c'est important que les idées elles passent aussi pas par l'instrument, qu'elles viennent de notre créativité intérieure et de notre oreille interne. On se dit, bon, qu'est-ce que cette œuvre devrait apporter? Comment je l'imagine dans ma tête? Et ensuite, d'essayer de le retrouver au piano. Et petit à petit, on commence à trouver des réflexes et le corps, avec l'expérience, sent les changements qu'il doit apporter pour obtenir quelque chose. Et donc, si on utilise l'oreille comme un guide, on tire son corps quelque chose qui y arrive petit à petit. Et donc, à la fin, on obtient une sorte de mémoire musculaire qui fait que pendant le concert, si ça se passe bien, on est libre de lâcher prise et de pas réfléchir à ce qui est en train de se passer parce que le corps a vécu assez de fois le chemin et le voyage de cette pièce pour le reproduire et nous permettre d'être un peu plus libre et d'improviser sur le moment des choses auxquelles on pensait pas.
Vous aviez auparavant le goût de faire redécouvrir des œuvres peut-être moins connues. Là, dans ce disque-là, vous vous attaquez à des pièces majeures. D'où vient ce changement de direction?
J'ai jamais eu une sorte de chemin particulier ou avec une revendication particulière. J'allais vers des œuvres qui me paraissaient belles et naturelles. Peut-être que aussi c'était les premiers disques de s'apporter une sorte de confiance et de légitimité de pourquoi on fait un disque. Parce que pourquoi on ferait un disque quand il y a 400 versions d'une œuvre, à moins d'avoir une vraie conviction et quelque chose à dire. Et
vous avez répondu à cette question. Vous savez aujourd'hui pourquoi vous faites un disque?
Déjà, je trouve qu'il y a, c'est une part très égoïste, mais c'est une des plus belles sessions de travail qu'on puisse faire. Donc, il y a un apport incroyable pour notre art, notre interprète, qu'on peut pas reproduire chez soi, on peut pas reproduire même avec toute la volonté du monde en travail. Ce moment, on est deux, trois jours bloqués avec son ingénieur du son, l'accordeur, et on se concentre et on teste énormément de choses, on cimente, on doit faire des choix. C'est une des plus belles sessions de travail. Donc, déjà, rien que pour ça. Et puis, ça me prend toujours beaucoup de temps avant de me sentir confiant de faire un disque. C'est pour ça que j'en sors peu et que je les sors souvent au bout d'une longue tournée où je joue beaucoup de fois les œuvres avant de les enregistrer. Donc oui, ça me prend du temps et je choisis quand même des pièces où j'ai l'impression que je vais avoir quelque chose à apporter et ça au début de prendre des œuvres qui ont au moins été enregistrées me donnait une sorte d'espace créatif où je me disais je vais peut-être avoir plus facilement ma place et aujourd'hui je découvre aussi j'avance dans le chemin, j'avance dans le répertoire et je prends toujours autant de temps, mais je m'attaque aussi à ces chefs-d'œuvre.
Après Brahms, Schubert, même question, Alexandre Kantorov, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ?
On vient d'entendre, comme Brahms, le scherzo, le troisième mouvement de la Wanderer Fantasie de Schubert, toujours dans ce disque que je viens d'enregistrer. C'est une œuvre, la Wanderer Fantasie, qui est tellement unifiée. On entend en fait les mêmes idées mélodiques qui sont avec des rythmes différents au fur et à mesure des mouvements. Et il y a ce chœur qui est le second mouvement, qui est le chœur de la pièce, qui est une sorte de texte mis en musique, un leader, et ses variations. C'est donc, il a mis un texte en variation, et c'est pareil pour la sonate de Brahms. Les deux partagent ce chœur qui est une pièce poétique, littéraire, mise en musique, en variation. Et voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre.
C'est une œuvre, on vient de l'entendre, hein, acrobatique, une course sur le piano. Est-ce que maîtriser cette technique, c'est un exercice qui vous plaît ?
Bien sûr. De toute façon, quelle qu'elle soit, en fait, c'est génial de se sentir tiré par une envie musicale et par un idéal de ce qu'on aimerait obtenir et d'essayer de trouver les moyens d'y arriver. La Wanderer Fantaisie de Schubert, c'est pas simplement qu'elle est acrobatique, c'est qu'elle est assez, les pianistes, je pense, savent de quoi je parle, elle est assez bizarrement écrite pour piano, elle est pas très naturelle. C'est-à-dire qu'un compositeur comme Chopin, Rachmaninoff, sait bien plus comment trouver dans les mains du pianiste le geste naturel et donc nous aide. Ici, Schubert, il nous aide pas du tout. Il a la musique simplement qu'il veut entendre et il faut qu'on se débrouille pour y arriver d'une manière ou d'une autre malgré des choses peu évidentes.
Mais donc, il y a une grande part créative qui est réservée au pianiste dans cette œuvre-là?
Je pense et je suis heureux parce que c'est notre part d'expression. On est des interprètes comme des acteurs, donc on est au service d'un texte et je compose pas, donc la seule liberté que j'ai, c'est justement d'oser faire un choix et d'essayer de comprendre et de donner ma vision de l'esprit d'une œuvre, d'essayer de l'éclairer le mieux que je peux et ensuite d'en exagérer, de le rendre audible et d'essayer de connecter cette œuvre et qu'elle atteigne le cœur des gens. Et donc c'est toute notre vie, ça me passionne.
Et dans une œuvre comme celle-là, comment on fait pour équilibrer l'instinct et le travail ?
On passe beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps aussi sans piano, on écoute d'autres choses de Schubert, on essaie de se faire une vision mentale, on essaie de l'éclairer, c'est pour ça qu'on analyse l'harmonie, on essaie de rechercher des choses dans les lettres de Schubert, on essaie de se donner des arguments en fait pour ses choix et de s'éclairer du mieux qu'on peut. Après, on est tous impuissants, même les compositeurs eux-mêmes ont un regard biaisé par rapport à leurs propres œuvres. On l'entend quand les compositeurs jouent leurs propres œuvres, ils la jouent de manière très différente de ce qu'ils ont écrite, même au fur et à mesure du temps, ils la transforment dans leur vision. Il y a Stravinsky, à la fin de sa vie, il veut rechanger l'Oiseau de Feu pour coller avec sa nouvelle vision de la musique beaucoup plus néoclassique et précise. Donc, à partir du moment où l'œuvre est écrite, elle appartient à tout le monde et c'est à chacun d'être en bonne et due conscience, de donner assez d'efforts et assez de travail pour se sentir légitime de la donner. Et on est tous confrontés à ça. Et avec l'expérience, on avance plus dans une voie et ensuite on change, on bascule. Et c'est tout ce chemin qui fait que les gens continuent de venir au concert écouter des œuvres qu'ils ont entendues pas mal de fois.
Avant de créer votre propre interprétation, est-ce que vous vous inspirez de tous les pianistes qui l'ont joué avant ou au contraire, est-ce que c'est table rase et vous essayez de partir de zéro?
De toute façon, c'est des œuvres là comme la Wanderer Fantasie qu'on a déjà entendu, donc on part toujours avec des idées, une mémoire. J'essaie vraiment de me détacher de ça. Et aussi, particulièrement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à disposition absolument tout. On a à la fois tous les disques, on a les plus beaux live pirates que des gens ont enregistrés et qu'ils mettent maintenant sur YouTube. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'on veut. Et au milieu de ça, c'est encore plus dur, je trouve, d'avoir sa vision. C'est quelque part presque vertigineux d'avoir autant de versions différentes et de pouvoir les comparer aussi vite. Donc oui, je m'interdis de les écouter trop pendant un moment. Et j'essaye de justement faire en sorte que quand j'écoute de la musique, ça soit un moment rare comme à l'époque où on allait au concert et c'était un moment précieux. Et du coup, on allait le garder avec soi. Donc moi qui écoutais énormément de musique, maintenant j'essaie vraiment de faire attention à ce que ça soit un moment marquant dans la journée, que je puisse garder des choses avec moi après.
Pour finir notre entrevue, Alexandre Kantorov, est-ce qu'il y a des œuvres qui nécessitent d'être plus âgées pour les interpréter ?
Non, surtout, je pense qu'en plus, les œuvres qu'on dit très matures, les dernières œuvres de Beethoven, les dernières œuvres de Bach, des choses comme ça, on se dit, bon, il faut une maturité. J'ai l'impression que la maturité, elle vient que parce qu'on les a commencées jeunes, et même si on les a pas données en concert, on a vécu avec ces œuvres au long de sa vie. Donc peut-être que quand on arrive effectivement à un âge où on les a vraiment réfléchies, on se sent mature de les donner, mais la maturité, elle arrive pas quand on commence une œuvre à 50 ans et qu'on ouvre la partition la veille. Donc non, je pense que c'est juste le chemin qu'on prend qui doit être long avec certaines œuvres. Et puis c'est passionnant en fait de voir une dernière œuvre jouée par quelqu'un de jeune et de voir ce qu'il en tire, parce que c'est tout comme deux personnes avec de la maturité le joueraient avec un regard tellement différent. Voilà, c'est ces regards-là et ces éclairages différents qu'on a besoin d'entendre. Et la chance qu'on a avec les grands chefs-d'œuvre, c'est qu'elles sont des chefs-d'œuvre parce qu'elles laissent tellement de choses, elles sont assez riches pour soutenir autant d'interprétations différentes.
En route vers d'autres cieux, il faut changer d'horizon, voyager. Ainsi, tu échapperas facilement à tout souci. Tel est le programme pour ce début d'année. Mais pour l'heure, les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Alexandre Kantorov d'avoir commencé l'année avec nous. On peut écouter votre dernier disque, Brahms Schubert, paru chez Bis Records, et venir vous applaudir en concert. Toutes les dates et références sont à retrouver sur la page des Midi de Culture. Cette émission a été préparée par Aïssatou Ndoye, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vigné, Lise Ripoche et Johan Ossilio. Elle est réalisée par Brice Garcia avec, à la prise de son, Jean-Guy Lormège.